Interview.
1 Interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour et je reçois deux archéologues. Bonjour Jacques Planchon, vous êtes conservateur au musée archéologique de Die et du Diwa.
Bonjour.
Et bonjour André Rivalan, vous êtes archéologue actuellement en mission, en tout cas responsable d'opération pour Mosaïque Archéologie sur le site archéologique de Chamarges.
C'est ça, tout à fait. Bonjour aussi.
Alors, vous êtes venu dans le studio aujourd'hui pour nous parler des portes ouvertes qui auront lieu très bientôt et qui concerneront ce fameux chantier. Alors, quand est-ce que ça aura lieu exactement ?
Ça aura lieu donc le week-end du 2-3 juillet. Il y aura donc, c'est l'après-midi, il y aura une première visite à 15h et une deuxième à 17h et la même chose pour le dimanche.
Donc on aura quatre occasions pour visiter et découvrir ce chantier de fouilles.
Oui, c'est ça. Fait.
Alors ça concerne quoi ? Pourquoi vous fouillez ? Et à la base, quelle est l'origine de ces fouilles ?
Alors l'origine des fouilles, c'est la construction d'une zone d'activité concertée, donc une zone artisanale et commerciale. Qui va se faire donc sur ce secteur de Chamarges.
Ce sont des fouilles préventives ?
Ce sont des fouilles préventives, ouais, qui font suite à des sondages qui ont été réalisés par l'INRAP, donc l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Ces sondages ont montré qu'il y avait des vestiges dans le terrain. Donc à partir de là, en effet, il y a une fouille qui est prescrite par les services de l'État et mise en concurrence de différentes structures d'archéologie agréées pour faire cette fouille. Et donc c'est l'entreprise Mosaïque Archéologie qui a été retenue. Et à partir de là, je crois qu'il y en a un qui est mieux placé que moi pour dire quelles ont été les découvertes et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce chantier-là.
Alors André, quand est-ce qu'on commençait ces fouilles et qu'est-ce que vous avez trouvé et comment ça se déroule tout ça ?
Alors, cette phase de fouille a démarré le 2 mai et elle va durer jusqu'au mois d'août, peut-être début septembre. En gros, on a deux phases d'occupation, une phase antique avec toute une série de vestiges, notamment des bornes qui sont liées à un parcellaire antique.
Alors un parcellaire antique, c'est une route ?
Un découpage du terrain, de la parcelle, selon un module de 50 pieds romains. Donc c'est comme ça qu'on a pu comprendre que c'était bien de cette période-là. Donc un système de bornage selon un module carré, avec également tout un système de drainage et d'assainissement du terrain, avec bien sûr des fossés, des drains, donc des grandes structures linéaires de ce type-là.
Ça, c'est pas compliqué à dater, c'est des trucs assez évidents au niveau des techniques qui sont employées.
C'est pas évident, d'autant plus que les structures en question n'ont pas livré beaucoup de mobilier archéologique, donc de céramique, en fait, surtout par rapport aux céramiques qu'on date, en tout cas de manière assez précise. On peut faire du datation à partir des charbons, le C14, mais déjà, un, ça coûte de l'argent, et deux, on a souvent des fourchettes chronologiques assez larges, alors que la céramique permet de resserrer les fourchettes chronologiques.
Alors c'est ce que me disait Jacques un jour, qui m'expliquait au musée que des fois, les fourchettes archéologiques, comme ça, vous resserrez des trucs, mais c'est quand même des périodes immenses, quoi. Donc niveau précision, c'est assez compliqué à mettre en œuvre.
Et encore, pour l'Antiquité, ça va. On a des fourchettes relativement resserrées, même si le site en question n'a pas livré des masses de mobilier céramique, justement, qui permet de dater. On est surtout sur des restes de couverture de toiture, ce qu'on appelle les tégulés. Donc ça ne date pas très précisément. Et on n'a pas beaucoup de ce qu'on appelle les formes qui datent.
J'ai une question. Pourquoi est-ce que la céramique, elle permet de dater plus précisément ? Parce qu'il y a des modes très précises au niveau de la création ?
Oui, parce que les productions évoluent au cours du temps. Donc c'est très compliqué, l'histoire des fourchettes chronologiques. Là, il faudrait que je fasse un cours.
De façon peut-être plus simple, ouais. Il n'y a qu'à regarder dans un vaisselier à l'heure actuelle, dans nos cuisines. On a des assiettes qui datent des années 2000, 90, 1980, voire 1970. On a tous en tête ces assiettes de grand-mère dans lesquelles on a eu la soupe quand on était petit, qui dataient des années 50-60, ou les assiettes archopales, typiques des années 60-70, ou les assiettes à, je ne sais plus si c'est 8 ou 10 angles, en une sorte de verre noir, qui est typique des années 80. Là, je parle pour nos périodes.
Ouais.
Mais en fait, pour l'Antiquité, pour le Moyen-Âge,
c'est un peu
pour
pareil.
La période antérieure, c'est un peu la même chose. La mode D'accord. change régulièrement, on refait des productions. Ça s'accompagne aussi de changements culturels et civilisationnels, puisque entre les Gaulois et les Romains, on ne mange pas la même chose. Et donc, si on ne mange pas la même chose, on ne se sert pas des mêmes ustensiles de vaisselle. Et tout ça permet d'amener des éléments de datation, puisqu'on sait qu'avec une assiette des années 80, on est dans les années 80.
Ouais,
c'est ça marche en 1980, mais au final, ça marche aussi en 080 après Jésus-Christ. Une assiette des années 80, c'est une assiette des années 80, toujours.
Ils se lassaient peut-être moins vite de leur vaisselle que nous, remarque. Mais en tout cas, c'est l'élément le plus précis. Voilà. Alors, tu l'as dit, des éléments de toiture, des bornes. Et, ouais. Et c'est ça le gros des trouvailles pour l'instant.
On a également un chemin antique, qui longe justement un fossé. Mais ça reste un chemin. Hein. On ne parle pas de vraies routes romaines. Voilà, c'est pas... comme dans Astérix.
On est plus là sur un chemin de desserte rurale ouais. qui est probablement, alors là je m'avance un peu, mais qui est probablement parallèle à la voie romaine, c'est-à-dire la voie principale de la vallée de la Drôme qui passe un tout petit peu plus au nord. Et en fait, bah, c'est comme dans la campagne à l'heure actuelle, hein, y a la route pour les voitures et puis si on va dans les champs, on va s'apercevoir qu'il y a des chemins de desserte ruraux qui sont utilisés par les tracteurs ou qui étaient utilisés par les tombereaux ou les charrettes dans l'ancien temps, etc. Donc là, c'est la même chose.
Et alors, à part l'époque antique, tu l'as dit, un deuxième...
Oui, donc il y a une deuxième phase d'occupation et c'est même elle qui a déclenché la fouille préventive. Donc c'est elle concerne, c'est la phase qu'on appelle la proto-histoire.
Il va falloir nous dater ça un petit peu.
Au départ, on séparait préhistoire et histoire tout court. Histoire, c'est à partir du moment où on a l'invention de l'écriture. Et préhistoire, c'est avant l'invention de l'écriture. Sauf que ça posait un problème, puisque on a par exemple des textes grecs du 6e siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui parlent des Gaulois, alors que les Gaulois ne connaissent pas l'écriture. Donc on a des textes écrits, historiques, qui nous parlent de populations qui n'ont pas de textes écrits. Et c'est cette période qui est un peu spéciale qu'on va traiter de proto-histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans les périodes historiques, puisque les peuples concernés ne sont pas capables d'écrire leur propre histoire. Mais on a quand même des textes qui parlent d'eux, donc on n'est plus tout à fait dans la préhistoire. Et en fait, on peut remonter ça jusqu'au néolithique, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition des premiers écrits. Que ce soit le cunéiforme en Mésopotamie, que ce soit les hiéroglyphes en Égypte. Mais ces premiers écrits-là datent de la fin du néolithique. Et donc c'est dans ces moments-là qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle la proto-histoire.
Merci pour cette précision de taille. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé qui correspond à cette proto-histoire ?
Alors, pour cette période, on a essentiellement des tombes, donc des inhumations qui sont réalisées, mises en place sous des tertres, sous des tumulus. Alors, bon, là, il y a une distinction.
tumulus. Alors déjà, tertre et tumulus, oui. Tu peux toujours me dire qu'il y a une distinction. Oui. Je ne connais ni l'un ni l'autre.
C'est un tas.
D'accord.
Un tas, ouais. Merci.
Un tumulus, donc c'est plutôt un tas de pierres. Et un tertre, c'est un tas de terre. Voilà, qui recouvre une sépulture. Alors là, on peut avoir des crémations ou des inhumations. Là, a priori, on est sur des inhumations, même si bon, on n'est pas à l'abri de surprises, déjà. Également de tombes multiples, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les chapes tumulaires, donc le système de couverture, reçoit parfois des tombes postérieures.
Défunt... On réouvre et on remet quelqu'un avec.
Pas
tout à fait avec,
non,
mais...
Non, mais dans l'espace, en tout cas dans la chape tumulaire. Voilà. Et parfois même à des périodes bien postérieures. On a un cas où on a une tombe antique installée, en tout cas dans le département de l'Hérault, une tombe antique à crémation installée dans un tumulus proto-historique à inhumation.
Ah, et de la même façon, dans les Hautes-Alpes, on a une tombe à inhumation... d'époque chrétienne et probablement 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, donc l'époque mérovingienne à peu près, qui est installée dans un tumulus qui lui date des alentours de 800 avant. C'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 ans qui séparent la première inhumation dans le tumulus de la dernière.
Voilà, alors avec ça, je ne sais pas comment vous y retrouvez exactement, mais ça doit être sympa. Ça doit être un gros boulot de classification d'indices, d'objets, de photos, de plans, de choses comme ça.
Ah ben c'est un travail d'enquête, hein. C'est vraiment ça. Hein. Effectivement, ça passe par des photographies, du relevé.
Des moulages ?
Des moulages, oui, oui, ça arrive. Je ne sais pas si on en fera, mais ce n'est pas impossible. Hein. On a quelqu'un dans la société qui est spécialiste de ça, qui fait des super moulages. Mais on va employer des technologies nouvelles hein, en archéologie, entre guillemets. On va utiliser la photogrammétrie qui permet de modéliser en trois dimensions les tertres, enfin les tumulus. En fait, c'est la série de photographies qui permet de modéliser en trois dimensions la structure archéologique.
Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas.
Non.
Que ce qu'on voit.
Que ce qu'on voit.
Ah d'accord, oui, ok. Oui.
Non. C'est vrai qu'après, par contre, à partir des mesures, des relevés, des plans, des coupes, etc., qui ont été faites sur le terrain par les archéologues, en reprenant ces éléments, en les rentrant correctement dans un ordinateur, c'est un gros boulot spécialisé, on peut aussi obtenir une restitution virtuelle en 3D complète, c'est-à-dire à la fois la visualisation depuis l'extérieur, c'est-à-dire ce que voyaient, je sais pas moi, les Romains quand ils passaient dans le secteur, ou les Gaulois avant eux, etc. Et puis on peut aussi modéliser à l'intérieur, au fond, au centre, le Maccabée. On peut même le faire vivre. Enfin, on voit ça dans les documentaires à la télé. Hein. Tout d'un coup, on voit ce machin apparaître, ça bouge, on se balade autour. Et puis après, tout d'un coup, il s'ouvre et on voit comment c'est foutu à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est tout à fait faisable. En fin d'opération, une fois que tout a bien été digéré, compris, interprété, et qu'on peut mettre ces données dans un ordinateur de façon efficace. Mais on n'en est pas là encore.
On est encore en train de fouiller. Ouais.
Il y a donc une deuxième phase qui est en cours. Est-ce que vous espérez trouver
on est en train de fouiller donc les tumulus. On en a trois avérés, sûrs. Peut-être un quatrième. On est encore en train de décaper le terrain avec une pelle mécanique, donc on peut encore faire d'autres découvertes. Mais pour l'instant, voilà, on est sur un ensemble de trois tombes de cette période.
Vous êtes donc en train d'inviter le public, le grand public, à venir visiter ça, évidemment de façon accompagnée. En pratique, qu'est-ce qui est intéressant à voir et à constater ? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu rares qu'on n'a pas l'habitude de voir par ici ?
Déjà, les tertres, les tumulus en eux-mêmes, ce sont les premiers fouillés avec les méthodes actuelles dans la Drôme. Donc rien que ça, déjà, ça, c'est un élément très important. Après, il y a toute la dimension du patrimoine. Hein. C'est pour les locaux, hein, c'est pour qu'ils puissent voir un peu le patrimoine archéologique de l'endroit où ils habitent.
C'est-à-dire que quand on fait des fouilles archéologiques, il y a plusieurs réactions. Hein. Ce n'est pas le premier chantier qu'on fait sur le Diwa, j'ai vu un peu comment les gens réagissent. Alors il y a les grognons qui estiment qu'on pourrait foutre le pognon ailleurs. Mais ça, il y en aura toujours.
Mais une grosse chape de béton là-dessus, on passe à autre chose.
Voilà.
D'accord.
Ça va tellement plus vite de détruire. Ceux-là, j'en parlerai pas. Par contre, il y a ceux qui s'intéressent, mais qui disent toujours on n'a pas accès au chantier, c'est un chantier interdit au public. Évidemment, il y a des engins qui tournent. Il y a des questions de sécurité, à la fois pour le personnel, par rapport aux engins, mais aussi pour les vestiges eux-mêmes. Hein. Il ne s'agit pas de mettre ses pieds n'importe où. Mais il faut toujours attendre un temps extrêmement long avant d'avoir une restitution publique de ce qui a été découvert. Et là, l'intérêt de ces journées portes ouvertes sur des chantiers en cours, il est double, c'est à la fois d'avoir cette restitution tout de suite, alors ça demande un peu d'imagination, mais justement c'est pour ça qu'on accompagne les visites pour donner les éléments de compréhension, et puis ça permet aussi ce que les Anglais appellent le work in progress, c'est-à-dire de voir les travaux en cours, les archéologues sur le terrain. Alors là, en l'occurrence, un week-end, les archéologues s'y rendent chez eux comme tout le monde. Mais on a le chantier en cours de route. Et c'est toujours, ça donne un peu l'impression qu'on participe soi-même aux découvertes ou à l'enquête. Enfin, je sais pas, les enquêtes policières, ça fait partie des séries les plus suivies à la télé. Et les enquêtes archéologiques, finalement, ça revient un petit peu au même. Hein. On dévide un fil, on tire des indices, on les met en commun et on essaye de voir ce que ça construit. Donc le fait d'être sur le chantier et de voir ça, ça présente le même type d'intérêt et le même type de suspense. Accessoirement aussi, tout ça est fait avec de l'argent public. Et moi, il me semble impératif que le public en profite. Parce que après tout, c'est notre pognon, à nous tous, hein, de façon générale. Même ceux qui fouillent, c'est sur leurs impôts que c'est pris aussi. Et du coup, bah voilà, c'est pas un chantier public pour des raisons de sécurité, mais c'est quand même un chantier public par son financement. Il est normal que le public en profite. C'est un chantier d'Iwa, et bah, les d'Iwa sont au moins invités pendant 2 jours à venir voir ce qui se passe chez eux. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et accessoirement, c'est bien l'idée qui a été mise en place en coopération entre la ville de Die et la communauté des communes, puisque tout ça a un coût. Je ne parle pas des fouilles, là, je parle des journées portes ouvertes et de la médiation qu'on fait autour. Et donc, c'est un coût qui est supporté à part égale par la ville et la communauté de communes.
Et ça aura lieu peut-être sur d'autres fouilles à l'avenir, vous ne savez pas ?
Alors, on essaye d'en faire assez régulièrement. Sur les fouilles de la place de la République, on en avait déjà fait. Alors, c'était en plein hiver, il neigeait. Mais malgré tout, il y avait eu plus de 200 personnes sous la neige. Il faisait entre moins 4 et moins 7, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, les gens s'intéressent réellement. Là, je pense qu'il fera une température plus clémente. Ce sera peut-être même l'inverse. On aura peut-être besoin d'ombrelles. Mais non, je crois que ça intéresse vraiment les gens de savoir ce qui se passe. Alors bon, la place de la République, évidemment, c'est en plein centre-ville, donc il y a beaucoup plus de passages. Là, on est un peu écarté, on est un peu plus tranquille, mais c'est tout aussi intéressant. Je voulais faire une toute petite précision.
Je t'en prie.
Quand on parle de tertre ou de tumulus, j'ai dit tout à l'heure, c'est des tas. Il ne faut pas penser que c'est des petits tas. Le plus gros tumulus, si mes souvenirs sont bons, connu à l'heure actuelle en Europe occidentale, c'est 360 mètres de diamètre et donc plusieurs dizaines de mètres de haut. C'est une vraie colline artificielle. On n'est pas dans les pyramides, mais ça commence à faire un énorme tas. Sur le Diwa, là, on est sur des choses qui sont de l'ordre de la dizaine ou de la vingtaine de mètres de diamètre. Et donc, il devait monter à, je sais pas moi, 3 mètres de hauteur, peut-être 4. Mmh. Alors, c'est bien descendu, là. Il y a beaucoup moins d'élévation. Mais voilà, c'est quand même des choses qui étaient assez impressionnantes et qui étaient prévues pour quand ça a été construit. Et ce qu'il en reste et qui est en cours de dégagement, là, c'est quand même assez impressionnant aussi. Toujours.
Voilà, c'est pas visuellement, c'est pas obscur. Quoi.
On voit bien qu'est-ce qu'on que a c'est à faire et ça permet de faire un bon support à l'imagination.
Il en faut pour l'archéologie.
Toujours.
Comme tu le dis régulièrement, il y a beaucoup d'interprétations derrière les faits et on se retrouve souvent à la fin d'une fouille avec encore beaucoup de choses en suspens.
Alors, une fouille pose toujours au moins autant de questions qu'elle ne permet d'apporter de réponses aux questions précédentes.
C'est pas un peu frustrant ça, du coup, André ?
Non, c'est ça qui est génial. Ça.
Non, c'est ça qui est stimulant intellectuellement. Oui, bien sûr. Non, c'est un vrai challenge. C'est une quête. Ouais, c'est absolument passionnant. Ouais, c'est sûr.
Qui sera là pour faire les visites et pour répondre aux questions le jour J, les jours J ?
Alors, ben, moi, je serai présent. Un de mes collègues également.
Pour le musée, ce sera Annaëlle et moi pour l'accompagnement aussi. Et on va faire ça en coopération. C'est-à-dire que là, on sera 4. Quoi. Deux archéologues et 2 musées.
Vous aurez de quoi.
On se partagera les groupes en fonction de ce qui vient.
Je vous rappelle que les portes ouvertes du site archéologique de Chamarges auront lieu le week-end du 2 et 3 juillet en après-midi, que vous pourrez y retrouver l'état des fouilles actuelles de ce site, poser plein de questions aux gens présents pour vous répondre. C'est gratuit, c'est libre. On vous attend nombreux. Merci beaucoup Jacques, merci beaucoup André.
Merci.
Merci.
Restez bien à l'écoute de Radio Tivoi. Vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews sur le www.rdwa.fr.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra.
Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, 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 des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.